France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'était il y a 30 ans, mais 30 ans tout juste. Aujourd'hui, le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris s'installait dans l'est de la capitale, à la Villette, dans un bâtiment conçu par Christian de Portzamparc, première pierre à une cité de la musique dont l'achèvement a eu lieu il y a 6 ans maintenant quasiment, avec l'arrivée de la Philharmonie de Paris. Bonjour Émilie Delorme.
Bonjour.
Directrice du CNSMDP, c'est son petit nom si on rassemble ce nom à rallonge. Moi je dis souvent Conservatoire supérieur de musique pour raccourcir. France Musique fête les 30 ans depuis jeudi et toute cette journée du CNSMDP avec différentes émissions. Vous fêtez aussi depuis jeudi, hier, aujourd'hui également. Comment célébrer en plein reconfinement un anniversaire comme celui-ci ?
Ah bah c'est toujours plein de déceptions de ne pas pouvoir présenter les jeunes artistes sur nos scènes, mais on a décidé de répondre par de la création audiovisuelle et du débat. Et donc on a toutes ces dernières semaines capté un certain nombre d'événements visant à montrer nos jeunes artistes sur scène, que ce soit les danseurs, les compositeurs, les interprètes. Et nous avons fait toute une journée de diffusion hier de ces productions, et puis on continue aujourd'hui.
Des débats aussi hier qui avaient lieu en direct, qu'on peut revoir d'ailleurs si on les a ratés hier.
L'ensemble des débats et de la programmation peut être vu sur notre site internet. C'était important pour moi qu'il y ait la place au débat, parce qu'en arrivant à la tête d'une institution, la première chose qu'on fait, c'est de réfléchir à l'avenir collectivement. Et donc ces débats nous permettaient d'élargir nos réflexions sur ce qui va être le conservatoire du futur.
Jusqu'à 9h, on va évoquer bien sûr vos projets, vos envies pour le Conservatoire supérieur de Paris. Mais en quelques mots de ces débats d'hier, qu'est-ce qui est ressorti ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revienne d'un sujet à l'autre ?
Oui, beaucoup d'abord de désir de participer à l'avenir du conservatoire de façon collective, un besoin de réflexion et de distance par rapport à ce qui se passe aussi, et de pouvoir mettre en débat les différentes choses. La question de la crise sanitaire est quand même arrivée très fortement dans les débats. C'est un des problèmes actuellement, hein. C'est de la peine de... On a de la peine à faire de la place dans les pensées, dans la programmation, dans l'ensemble des choses, en dehors de cette crise sanitaire qui phagocyte l'énergie des gens. Beaucoup du coup aussi de questions liées à la place du numérique. Au-delà de la crise, ça va être une question qui va nous occuper. Et heureusement, quand même, beaucoup de musique et de danse.
Ça fait beaucoup de choses. De la musique, justement, il y a un label, on va en parler dans un instant, un label, et on en parlera tout à l'heure aussi avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier, du CNSMDP. Voici un extrait d'un disque de ce label, c'est Nadia Boulanger, jouée par Raphaël Jouan et Flore Merlin, deux anciens étudiants du conservatoire. Thank you. vite et nerveusement rythmé, extrait des trois pièces pour violoncelle et piano de Nadia Boulanger, Raphaël Jouan au violoncelle, Flore Merlin au piano. On réécoutera d'ailleurs ce disque tout à l'heure avec Émilie Munera et Rodolphe Bonneboulmier, disque du label initial du CNSMDP, le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, dont vous êtes la directrice, Émilie Delorme. Vous êtes notre invitée jusqu'à 9h. Pourquoi un label pour un conservatoire? Ça peut paraître de prime abord une curieuse idée.
D'abord, c'est un outil d'insertion professionnelle. Je pense que le fait que vous passiez le disque sur les antennes, c'est un bon outil de promotion pour nos artistes. Et puis, c'est intéressant aussi de leur faire réfléchir à tout le process de l'enregistrement d'un disque. C'est-à-dire que quand ils sont sélectionnés pour enregistrer un disque, on les accompagne de la conception du programme, du choix des instruments. Là, je crois qu'on a entendu nos pianos Erard et le parc instrumental du conservatoire est assez remarquable à ce niveau-là. La direction artistique qui dialogue avec les ingénieurs du son, et la direction artistique est aussi assurée par un de nos élèves en formation supérieure des métiers du son.
Parce qu'il faut rappeler que l'Observatoire forme aussi des métiers du son, des ingénieurs du son, tout le monde ne le sait pas forcément.
Voilà, puis on les accompagne ensuite sur même la réalisation du livret, la promotion, donc ils sont ensuite à même de mener leur projet discographique de A à Z.
On vient d'entendre la musique de Nadia Boulanger. C'est un de vos chevaux de bataille depuis que vous êtes arrivée il y a un an. La question de la place des femmes dans la création, dans l'interprétation. Aujourd'hui, par exemple, un exemple, mais bien que vous soyez arrivée, il y a toujours, si je ne m'abuse, aucune femme en cours de classe de direction d'orchestre. Comment on peut pratiquement changer une chose comme celle-ci?
Alors, on en a quand même quelques-unes. Il n'y en a pas, je crois, qui sont rentrées cette année, mais on a quelques femmes dans les classes de direction d'orchestre. C'est des chantiers qui vont nous occuper sur le long terme. On ne va pas faire de miracles du jour au lendemain, mais on doit agir à tous les niveaux, c'est-à-dire agir dans les modèles qu'on présente aux étudiants, dans les personnalités présentes au jury, dans les gens invités aux masterclass, dans les outils de communication qu'on utilise. Et puis après, je pense qu'on a une discussion un peu plus de fond à avoir avec aussi tous les établissements d'enseignement initial sur comment on suscite ces vocations-là, comment on encourage les gens à le faire. Et je pense, on voit notamment, vous parlez de la direction d'orchestre, on voit l'effet de ce qu'a mis en place la Philharmonie avec la Maestria. Tout d'un coup, on en parle. On voit que les programmateurs s'emparent du sujet et ça change finalement d'un coup assez rapidement. Maintenant, il faut qu'on arrive à accompagner toute une génération pour qu'il y ait assez de femmes formées pour pouvoir être présentes sur les scènes françaises et internationales.
Quitte à mettre en place des quotas, même si le mot n'est pas forcément très heureux, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Ça se fait ailleurs, dans plein de grandes écoles.
Ça se fait à certains endroits, mais je pense qu'on a encore des choses à faire avant de passer au quota. J'aimerais bien que ça se résolve de façon structurelle, sans avoir à... Je pense que quand on en arrive au quota, c'est quand même qu'on est arrivé à une certaine forme d'échec. Donc là, on a encore des actions à mener qui peuvent nous permettre d'éviter de le faire.
La question de la diversité également, et de jeunes qu'on dit issus d'immigration, quelque chose auquel vous veillez, Émilie Delorme, au CNSMDP. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y a du mieux?
Alors, je suis là depuis 11 mois et il y a eu une crise sanitaire au milieu. Donc forcément, ça c'est des sujets aussi qu'il faut qu'on déroule sur de nombreuses années.
En chantier.
Ça sera un chantier pour la suite. Ce qui est important, c'est que le débat est ouvert, que c'est un désir qui semble largement partagé dans l'institution. Et donc, hier encore, on était en débat sur notre site et j'en discutais avec Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, qui lui aussi est très volontaire sur le sujet. Donc là aussi, il y a un contexte qui fait qu'il y a suffisamment de personnes qui veulent s'emparer de la question pour qu'on puisse avancer collectivement de façon assez rapide.
Vous évoquiez Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, le Conservatoire supérieur de Paris, Émilie Delorme, a vocation à travailler, que ce soit parisienne ou autre, avec les institutions culturelles. Comment le lien peut-il se faire, y compris d'ailleurs la nôtre?
Alors, on travaille, je pense, avec quasiment l'intégralité des institutions parisiennes, si ce n'est l'intégralité. C'est naturel, puisqu'on forme quand même l'essentiel des artistes français. Et on le voit en plus dans ce contexte de crise, à quel point France Musique s'est associée à nous pour nous soutenir dans ces 30 ans-là. L'Opéra Comique rouvre le 15 décembre et nous a proposé de nous associer à l'événement de réouverture. Et on le fera avec une masterclass de Barbara Hannigan et les chanteurs du département vocal. On travaille avec la Philharmonie, l'Opéra... le théâtre de Chaillot, la Villette, évidemment, tout ça, c'est l'écosystème qui est proche et ce sera surtout les scènes sur lesquelles nos artistes vont se produire dans les années qui viennent.
Émile Delorme, vous venez de nous dire on forme l'essentiel des artistes français. Je vais vous poser une question un peu naïve, mais aujourd'hui, à quoi sert le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris? Pendant longtemps, on considérait que c'était une école à solistes.
Eh bien, je pense qu'on forme une génération d'artistes qui eux-mêmes inventent leur carrière actuellement et qui sont des carrières vraiment protéiformes. Et donc, on a, on en parlait tout à l'heure, un département qui forme des ingénieurs du son. On forme des instrumentistes qui ont des carrières de solistes, des carrières de musiciens d'orchestre, des pédagogues, beaucoup aussi. On forme des gens qui vont aller faire de la médiation. On forme des chanteurs, on va vers l'opéra, la danse, les notateurs du mouvement, qui sont aussi une des grandes spécificités.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas cette expression.
Eh bien, on forme des artistes qui notent les mouvements chorégraphiques pour qu'on puisse remonter des chorégraphies, mais aussi pour qu'on puisse avoir un regard distant d'analyse du mouvement dansé. Et donc ça, c'est une des spécificités du conservatoire.
Et puis, il y a plein de départements, y compris départements de musique ancienne. Bah, justement, on va écouter un peu de clavecin ce matin avec une musique peu connue, celle de Thomas Créquillon. Le Guéberger, musique de Thomas Créquillon, interprété au clavecin par Rétus Noguera Guilaine. C'est un autre extrait d'un autre album paru lui l'an dernier chez Initial, le label du Conservatoire supérieur de musique de Paris, dont on fête l'arrivée il y a 30 ans à la Villette avec sa directrice Émilie Delorme et qu'on fête tout au long de la journée sur France Musique. D'ailleurs, depuis jeudi dernier, Émilie Delorme, près de 1400 élèves au Conservatoire. Est-ce que c'est trop ou pas assez? Ou est-ce que c'est bien?
On a une insertion professionnelle de l'ensemble des étudiants du conservatoire très rapidement après leur sortie. Donc ça veut dire qu'on n'en forme pas trop par rapport aux besoins du marché du travail. Ouais. Après, il y a énormément de candidats, donc on pourrait en former plus. Il y a certains concours d'entrée où le niveau est tellement haut que la sélection est très très dure. Après, je pense que c'est la capacité maximum que l'établissement peut porter actuellement.
Vous travaillez avec le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Lyon et avec les pôles supérieurs, des pôles supérieurs partout aussi en France, où vous ignorez?
On travaille très très bien avec Mathieu Ferret.
Pas en concurrence.
D'ailleurs, quand je dis qu'on forme l'essentiel des musiciens, c'est avec eux aussi, évidemment. Avec Mathieu, on vient de signer un accord de collaboration, un accord cadre pour expliquer justement comment on peut travailler ensemble. On a beaucoup de complémentarité à travailler et on peut avoir une concurrence saine à certains endroits, mais on peut travailler ensemble beaucoup mieux. Et le Conservatoire de Paris vient de rejoindre l'ANESCAS, qui est l'association qui regroupe justement les pôles d'enseignement supérieur et les deux conservatoires supérieurs pour réfléchir ensemble. On voit qu'on a des enjeux importants au niveau de la politique culturelle française et puis dans les enjeux d'insertion professionnelle, de réflexion sur les questions dont on a parlé, d'égalité, de diversité et beaucoup d'autres sujets en commun. Donc c'est au contraire une volonté très forte d'être en discussion avec eux.
Ce qu'on n'a pas dit sur ces près de 1400 élèves, Émile Delorme, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas français, certains qui viennent même de très loin, de Chine, du Japon, des États-Unis ou d'autres pays encore. C'est une école qui attire le monde entier.
Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les anciens élèves retournent dans leur pays, enseignent. Et comme ça, on a des générations d'élèves qui arrivent de certains pays. Et la spécificité de l'enseignement français et aussi du répertoire français. Beaucoup d'élèves étrangers viennent là pour travailler ce répertoire spécifique, que ce soit dans le répertoire des musiques baroques, des musiques classiques et de la création contemporaine.
Vous l'avez dit, vous êtes arrivé il y a un an et puis au bout de 3 mois, cette crise sanitaire qui se produit, le retour à des cours physiques, quoi, c'était en septembre, à nouveau le reconfinement. Là, sur les 1400 élèves, et j'imagine que ces élèves étrangers ne sont pas revenus avec la fermeture des frontières.
Alors, ils sont tellement déterminés, les élèves, pour travailler, qu'en général, ils se sont débrouillés pour pouvoir revenir, franchir les frontières comme il fallait. Et la plupart sont assez proches du conservatoire, même si certains ont choisi de se confiner un peu loin. Depuis le mois de novembre, on autorise quand même 1 heure de cours de présentiel sur site, ce qui fait que sur les 1400, on a à peu près 300 à 400 élèves qui sont présents chaque jour. Au moins un court moment pour travailler dans l'établissement. Il faut savoir que pour des jeunes artistes, d'avoir un studio où travailler, c'est pas évident, notamment à Paris, d'avoir accès aux instruments de musique. Donc le fait que le conservatoire puisse rester ouvert, même partiellement pour eux, c'est assez essentiel.
Donc ça, c'est des cours individuels. En revanche, il n'y a pas de pratique collective pour l'instant.
Alors, on a la pratique de la danse qui se fait collectivement. Mmh. Ensuite, pour l'instant, on limite les pratiques collectives et j'espère vraiment qu'on pourra, au mois de janvier, reprendre un peu la pratique d'orchestre, notamment avec Jean-Claude Casadesus
et David Cadouche, qui ont tous les deux leur anniversaire. Jean-Claude Casadesus, 85 ans, David Cadouche, 35 ans. Et c'est un hasard, ils viendront avec l'orchestre du conservatoire en janvier, mi-janvier, pour ce concert, si tout va bien. On va quand même parler de vos projets, de votre vision. C'est quoi vos chantiers principaux, Émilie Delorme, aujourd'hui, au bout d'un an, et avec cette arrivée forcément inattendue, vu les circonstances, s'il y avait quelques chantiers prioritaires pour vous, ce seraient lesquels? On a déjà évoqué certains d'entre eux.
Oui, alors il y a un des sujets qui devient d'autant plus crucial en ce moment de crise, qui est la question de l'insertion professionnelle. Et donc je voudrais qu'on puisse vraiment travailler cette insertion professionnelle à la fois pendant les années d'études, mais ensuite aussi après la fin du conservatoire. Comment on peut encore accompagner les anciens étudiants du conservatoire dans les premières années de leur vie professionnelle ou quand, dans les moments de carrière, il y a besoin de changer. Donc ça va être traduit très concrètement par à la fois la mise en place d'un bureau des carrières en interne qui permet à nos étudiants de mieux se préparer à l'insertion professionnelle, mais aussi par des dispositifs de formation continue qui permet aux anciens élèves de revenir. On voit que cette dynamique avec les anciens élèves est très importante. Tous ceux à qui on parle du conservatoire, et j'étais très touchée d'entendre Jean-Claude Casadesus qui, même après ces années, mentionnait qu'il était passé par le conservatoire. Et je pense que derrière cette dynamique-là, on a quelque chose de très fort à créer.
Donc Jean-Claude Casadesus pourrait aussi venir pour raconter son expérience aux étudiants du conservatoire. Bah voici justement une professeure du conservatoire, c'est Claire Désert. Thank you. Non pas un, mais deux profs du Conservatoire de Paris, Philippe Graffin au violon, Claire Désert au piano, dans cet extrait de Minstrels, les préludes, premier livre des préludes de Claude Debussy. Claire Désert, immense professeur de musique de chambre qui a tant formé de musiciens et marqué ses élèves. On en parlera d'ailleurs après 9h avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Émile Delorme est notre invité ce matin pour ses 30 ans à la Villette du Conservatoire, directrice depuis quasiment un an du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Les profs, d'ailleurs, les professeurs, ils sont réceptifs à ce que vous dites, ce, je veux dire un mot affreux, mais le service après-vente, c'est-à-dire continuer à suivre les élèves une fois qu'ils sortent du conservatoire avec ce bureau des carrières que vous avez annoncé.
Les enseignants sont en général très attachés à l'avenir de leurs étudiants et je pense qu'ils le font. Ils font beaucoup de choses de façon informelle et non dite, c'est-à-dire on les voit qui continuent à soit à donner des cours, soit à accompagner, à conseiller. Il y a un lien très très fort, je pense, qui se crée au moment des années du conservatoire. Là, il s'agit de les accompagner sur d'autres aspects ou alors de les amener à d'autres enseignements. Mais je crois que ce lien-là, il existe à vie.
Et puis après, ils deviennent amis et partenaires même de musique. Ça arrive très souvent. Émilie Delorme, on a parlé de cette crise, mais forcément, certains élèves, étudiants sont confrontés à des difficultés financières. Il faut vivre, il faut avoir un toit, il faut manger. Est-ce que le conservatoire peut des choses pour ça ?
On fait notre maximum. Il y a eu un système de bourse d'urgence qui a été mis en place dès le début de la crise parce que beaucoup d'étudiants ont perdu leurs revenus. Et là, on voit que depuis septembre...
Les jobs, hein,
oui,
eux
aussi. Ils sont souvent ouvreurs, ils donnent des cours de musique, ils donnent aussi des représentations artistiques, hein, puisque c'est leur métier principal. Et tout ça s'est arrêté. Et on voit que depuis la rentrée, même c'est les parents des étudiants qui commencent à perdre leurs revenus. Et donc là, on aide quasiment un tiers de nos étudiants en ce moment... par des systèmes de bourse. Donc c'est les présidents d'université ont largement interpellé là, le gouvernement sur la précarité étudiante, mais c'est assez urgent pour nous de trouver des solutions plus structurelles.
Je renvoie au site du CNSM, on pourra avoir un certain nombre de concerts enregistrés, notamment la pratique vocale, les disciplines vocales, ce sera à 16h, les danseurs aussi à 17h, on peut voir tout ça qui a été enregistré récemment, Émile Delorme.
Oui, alors le projet Cunningham x 100, il date d'il y a à peu près un an, mais l'ensemble des autres projets ont été enregistrés cet automne par les équipes du conservatoire.
Et puis on n'a pas parlé, ou très peu, de tout un département rayonnant, mais on en parlera ce soir à 18h dans Open Jazz avec Alex Dutille. C'est le jazz et tout ce qui est musiques actuelles, c'est une vraie partie du conservatoire.
Oui, et puis hier, on a diffusé un concert de jazz qui était tourné, dans lequel c'était extrêmement émouvant pour moi de voir les enseignants jouer avec leurs étudiants. Et là aussi, ce passage entre étudiants et enseignants sur les scènes directement déjà au conservatoire était un moment particulièrement bouleversant pour moi hier.
Donc on peut revoir tout ça sur le site du CNSMDP de Paris. Émilie Delorme, directrice du conservatoire. Merci d'être venu pour nous parler de cette première année forcément très particulière avec cette crise sanitaire qui est intervenue et ces premiers chantiers que vous lancez. Vous reviendrez pour qu'on fasse un point dans quelques mois en espérant que tout revienne et notamment la pratique collective et la pratique collective du jazz. Voici les étudiants de votre conservatoire avec Hugh Coleman, il y a également Joanne Fargeau au piano et Raphaël Humbert. C'était enregistré au Bal Blomet à Paris.
Thought you were sleeping and the diamond ring. bought you a Cadillac and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Well, gee, baby, ain't I good to you?
Hugh Coleman, Joan Fargeau, Raphaël Imbert et les étudiants du département de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Demain, notre invité sera Klaus Makela, 24 ans, le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris, enfin le futur, mais il dirige déjà l'orchestre. Il sera avec nous en direct demain matin.
À réécouter sur francemusique.fr.